Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour après la pause et avec Élisane Pellerin, notre chroniqueuse internationale. Bonjour Élisane.
Bonjour, je suis rendue internationale maintenant.
Ben oui, internationale, mais locale aussi de la même façon. On va faire le tour de la planète. La planète est plus au Québec cette semaine.
Il y a plus de choses qui se passent au Québec au niveau de l'accessibilité, à tout le moins cette semaine. Donc, on n'aura pas beaucoup d'international.
Ah, ben.
Je vais me reprendre la semaine prochaine.
Ben, ça, je suis sûr. C'est une roue qui tourne. Mais parlons de X, hein, ce qui s'appelait auparavant Twitter.
Ce qui s'appelait auparavant Twitter. Donc, il y a un choix esthétique qui a été fait par Elon Musk, qui est le propriétaire de Twitter, qui demande en fait que les nouveaux affichages d'articles de presse sur X retirent les titres et les sous-titres, donc pour ne conserver que l'image. Je répète donc, c'est pour des raisons esthétiques, mais ce que ça donne en fait, c'est que pour les personnes qui ont besoin de lecteurs d'images, donc les personnes qui ont des difficultés visuelles entre autres, c'est impossible en fait ce n'est pas compatible avec ce type de lecteur-là. Donc ça a été quand même...
C'est un choix esthétique,
qui
dérange, réduit l'accessibilité.
Voilà, qui dérange certains, justement, parce que l'accessibilité en est réduite. Et comme ce n'est qu'esthétique, ben, on aurait pu passer outre là, pour les raisons d'accessibilité du site.
Et puis, en même temps, ben, c'est un petit peu marcher à reculons. Il existe des solutions, semble-t-il, pour les gens qui se butent à... C'est bourreux de surfer sur X, c'est important, puis d'avoir accès à des informations qui sont diffusées de cette manière-là. Ça a l'air qu'on peut y arriver, mais faut faire des entourloupettes un peu.
Mais il faut que les gens qui postent fassent des entourloupettes, et alors là, c'est de demander à des gens qui n'ont pas nécessairement de problèmes visuels de penser à leurs concitoyens et donc d'oublier, par exemple, le lien, donc URL, pour que celui-ci apparaisse dans l'article. Et donc, okay. qu'il ne disparaisse pas au même titre que d'oublier les titres et les sous-titres pour que ceux-ci apparaissent en texte et donc que ce soit également là, avec écrit, même si on a image. Là.
D'accord, mais là, moi, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne au sujet d'Elon Musk là, depuis quelques années. Depuis qu'il a acquis X, qui s'appelait auparavant Twitter, il a viré 80% des employés et les abonnements sont en baisse de 13%. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'il veut en venir avec ça, mais pour l'instant, sa gestion est
Il a déjà été
chaotique.
Plus apprécié.
Oui, voilà, c'est ça, exact. Et puis, on sait que du côté des auto-Tesla aussi, il y a des choses qui ne vont pas toujours dans la bonne direction.
Il y a quelques petits problèmes mineurs.
Mais il a fait de belles choses, mais il en fait d'autres qui sont moins pratiques. En parlant de grands projets au Québec, c'est la loi 15 hein, qui est partout.
Oui, la loi 15 qui préoccupe là, les personnes qui sont à la défense des droits des personnes en situation d'handicap. Il y a 6 ex-premiers ministres là, qui critiquent le projet de loi 15 de la façon dont il est écrit actuellement, qui modifie donc le réseau de santé et des services sociaux. Donc, ils disent que la suppression, par exemple, des conseils d'administration des établissements de santé et la centralisation du réseau pourraient affecter donc l'efficacité du réseau, particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a 6 premiers ministres quand même qui sortent dans la presse.
Oui, c'était spectaculaire, souvent, ouais. Ça. Oui, parce que c'était des premiers ministres qui venaient de différentes allégeances.
Oui.
Hein?
Qui venaient de différentes provinces aussi, mais qui se mettent ensemble pour dire que finalement, là, il y a peu de démocratie qu'on avait, là, par exemple, avec les conseils d'administration vont être réduits et donc finalement, les citoyens, les usagers n'auront presque plus leur mot à dire et l'efficacité des services pourrait être modifiée à la baisse par, encore une fois, le désir de centralisation qu'on voit beaucoup dans les dernières années. Et étant donné cette centralisation-là, on pense que les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables, en général, vont souffrir du manque
oui,
de
parce
services.
Parce que si on s'éloigne de ce qui se passe sur le terrain, on est encore dans une situation où la consultation en amont va commencer à se perdre. Puis il y a beaucoup de situations locales, du cas par cas, et des choses qui vont simplement disparaître. Alors, après la lettre des 6 anciens premiers ministres, Mme Lily Plourde, directrice générale de la Fédération québécoise de l'autisme, et Mme Isabelle Tremblay, directrice générale de l'Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées. Alors, on publie donc une lettre qui allait aussi dans ce sens-là pour mettre le gouvernement en garde contre la façon ou la mouture actuelle du projet de loi numéro 15. On verra à quel point ça va être capable de faire, je dirais, changer un petit peu les choses ou amender le projet, mais c'est à suivre parce que, à prime abord, les personnes en situation de handicap pourraient être mal servies.
Oui, puis les comités d'usagers qu'on propose d'enlever, en fait, ben c'est vraiment des comités qui servent à des personnes qui sont extrêmement vulnérables. Donc,
exact.
C'est particulier et c'est inquiétant là, pour ces personnes-là.
C'est des forums dans lesquels on peut se faire entendre, puis si ça disparaît, ben on se demande comment est-ce qu'on va avoir voix au chapitre. En parlant, ça, encore une fois, on va parler à nouveau, fauteuil adapté et compagnie aérienne.
Oui, mais cette fois, c'est la dirigeante principale du Bureau d'accessibilité du Canada, Stéphanie Cadieu, qui est arrivée à destination, donc qui s'est rendue compte que son fauteuil roulant avait été oublié, donc à 4000 km de sa destination quand même, et donc elle est descendue de l'avion, il n'avait plus de fauteuil roulant. Pour la dirigeante principale du Bureau d'accessibilité du Canada, c'est quand même quelque chose.
Là, ça paraît mal.
Ça paraît mal.
Encore plus. Disons qu'ils sont pas tombés sur la bonne personne.
Elle ne s'est pas gênée de le dire publiquement et d'utiliser sa prestance ou à tout le moins son réseau pour défendre la situation des personnes handicapées parce que justement, elle trouve que les services aux personnes en situation de handicap en général dans les compagnies aériennes, ça devient difficile.
C'est comme une loterie. Est-ce que mon fauteuil va se rendre et si oui, dans quel état?
Oui, voilà, aussi.
Et elle a bien fait attention, Mme Cadieu, quand elle a publié sur les réseaux sociaux sa mésaventure et en fait son... Elle était outrée et scandalisée à juste titre de la façon dont Air Canada ne s'était pas occupé de ses affaires. Il l'avait privé de sa mobilité, de son indépendance. Elle a bien fait attention de dire, ben là, on va en parler parce que je suis une personne visible, étant donné qu'elle est directrice du Bureau de l'accessibilité du Canada. Elle m'a dit, il y a tellement de gens qui n'ont pas ce poids médiatique.
Elle a vraiment utilisé sa visibilité mais pour mettre en force sur le fait que ça arrive à tout le monde.
Exactement.
Et que monsieur et madame tout le monde n'ont peut-être pas, justement, de moyens pour contrer ce type de situation-là quand ça leur arrive, puis que, bon, ça arrive finalement assez souvent qu'on n'en fait pas tout à fait de cas, ce qu'elle déplore dans les faits-là.
Parce que c'est sûr que Air Canada, rapidement, a commencé à publier des communiqués, s'est excusé auprès de Mme Cadieu, ils ont fait toutes sortes de choses là pour que... On essaie d'éteindre le feu, là. Mais on sait que dans d'autres cas, des personnes dans des situations semblables, avec des besoins similaires, ont été très mal servies.
Oui.
Et là, ça a été plutôt comme...
Oui, dans certains cas, on réagit moins rapidement.
Hein. Oui, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Cela dit, il y a quand même des belles choses qui se passent un peu partout, entre autres au Québec. On va parler de logements et d'immeubles adaptés tout de suite après la pause. Quoi qu'il en soit, on va parler de belles choses qui arrivent, entre autres, dans le domaine de l'habitation. Et souvent, c'est des petits pas dans la bonne direction.
Oui, donc on parle à Est Angus, donc 8 appartements qui ont été inaugurés pour personnes en situation de handicap. On porte donc à 24 le nombre d'habitations du genre dans les municipalités. Et d'autres bâtis similaires ont été construits un petit peu partout, entre autres à Windsor, à Val-des-Sources, à Richmond. Donc on parle en tout de 200 habitations adaptées dans les régions de l'Estrie, de la Montérégie et du Bas-Saint-Laurent. C'est encore peu, mais on fait des pas dans la bonne direction.
Bien, ça, c'est l'initiative d'un organisme qui s'appelle En Logement, H-A-N Logement, qui est actif dans la région de Sherbrooke. Pour ceux qui ne le savent pas, East Angus, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres là, au sud-ouest, à l'est de Sherbrooke, pardon. Mais ce sont souvent des initiatives comme celle-là, région par région, qui vont faire une différence dans ce projet-là. À East Angus, la construction des 8 logements a été rendue possible grâce à 700 000 $ du Québec et 300 000 $ d'Ottawa, qui a fait 50 % du coût total de 2 millions qui a été suivi
du... des logements donc à prix modique, donc oui. Pour les gens qui ont de la difficulté avec les hausses des coûts de la vie, ce sera quand même un pas dans la bonne direction.
Et tant qu'à habiter, on peut aussi, chez soi, on peut aussi aller au chalet.
Oui, voilà.
Et ça, c'est important. Et ça, c'est une autre offre intéressante pour la vigiliature.
Oui, voilà. François fait de beaux liens aujourd'hui parce qu'on parle de chalets adaptés. On parle des chalets U qui font émeu dans plusieurs régions au Québec. Donc, des chalets U qui sont des chalets totalement adaptés. Dont Éric Gazaille et Martin Rivard sont les propriétaires et sont les concepteurs. On parle de chalets, donc, qui sont adaptés, qui ont des aires qui sont beaucoup plus larges, qui ont des lavabos où on peut mettre un fauteuil roulant en dessous, où on peut aller dans la douche avec un fauteuil, par exemple, et avoir des portes automatiques. Donc, c'est des chalets qui sont offerts pour des locations de vacances et qui peuvent accommoder des personnes qui sont en situation de handicap.
Et ça, c'est important parce que si moi, j'ai souvent entendu des histoires d'horreur des gens qui avaient une mobilité réduite, qui étaient en fauteuil, puis qui voyaient une annonce de ce qui devait être un chalet adapté. Puis il y avait comme une rampe. Alors, une fois rendu à l'intérieur, c'est très bien, mais rendu à l'intérieur, là, ça se compliquait parce que les comptoirs n'étaient pas à la bonne hauteur, les lavabos non plus, ni la salle de bain n'était pas adaptée. Alors, l'adaptation était uniquement d'avoir mis une rampe jusqu'à la porte d'entrée. Le projet pilote à Kiroul, parce que Kiroul est un organisme dont on parle parfois ici à Canalem, l'organisme chargé par le ministère du Tourisme de certifier les établissements touristiques et culturels accessibles aux personnes avec des problèmes de mobilité. Bien évidemment, les gens de Kiroul sont allés voir les chalets U et leur ont donné
la certification.
Alors, et on parle d'une vraie accessibilité.
Et pour les personnes qui cherchent des chalets adaptés, qui roulent quand même un endroit sur le site Internet où on peut chercher ce type d'habitation et aussi chercher des activités qui sont adaptées. Donc, c'est un endroit où on peut auquel on peut faire confiance quand on veut aller en vacances pour éviter les mauvaises surprises dont vous parliez, François.
Oui, tout à fait. Kiroul est une, comme je dirais ça, est une référence.
C'est un pays, oui, c'est un pays.
Et moi, je dois dire que ce soit... pour passer des vacances l'été ou l'hiver, nous allons sur le site de Kiroul trouver des bons endroits qui sont accessibles. Parfois, on trouve des petits bijoux à côté desquels on passait sans le savoir. Parlant d'adaptation de logement encore, c'est le thème cette semaine.
Oui, donc on va parler de Mathieu Lamarche qui, lui, a des complexes immobiliers. Mathieu Lamarche qui est devenu tétraplégique suite à un accident de moto. Il était analyste financier, donc il faisait comme entrepreneur des projets d'immobilier. Donc, vu son nouvel état, il s'est rendu compte que les chantiers de construction et les complexes immobiliers étaient souvent très peu adaptés pour les gens comme lui. Et ses circonstances de son accident ont fait en sorte qu'il a fait 180 degrés et a commencé à réfléchir à des complexes immobiliers adaptés. Oui. Et c'est maintenant sa mission de vie à ce monsieur-là. Il essaie donc d'avoir des complexes qui sont de plus en plus adaptés pour les gens qui en ont besoin. Et on parle donc du groupe GDI qui se spécialise, en fait, c'est ça, dans les complexes immobiliers adaptés là, pour les personnes qui auraient besoin de résidences répondent à leurs besoins.
Ils ont déjà, je pense, quelques projets. Je pense Terra Nova et Terra Nova 2. Si ma mémoire est bonne, c'est dans le coin de Terrebonne. On a eu le plaisir d'avoir Mathieu Lamarche à notre antenne l'année dernière, je pense bien. Et il y a une certification américaine qui s'appelle Fitwell, qui est une certification d'accessibilité pour les immeubles logements multiples et un nouveau projet Nevea, qui a été soumis à l'approbation de la Ville de Laval, le futur complexe de 15 étages. Alors, 15 étages, c'est beaucoup de monde conçu par TLA Architectes s'élèverait. On est encore au moment de la planification au nord du marché public 440. Alors là, on est vraiment au centre de Laval. Alors, c'est quelque chose qu'on va suivre de près parce qu'il n'y aura jamais assez de logements adaptés. Hein?
Non, il n'y en a jamais assez de ça. On les cherche toujours.
C'est comme à Toronto, il n'y aura jamais assez de stations adaptées.
J'aime les liens.
Voilà.
Mon Dieu, François est en forme aujourd'hui parce qu'on parle justement...
Ça doit être la neige.
Ça doit être la neige. François doit aimer la neige, contrairement à moi. Donc, on parle de la commission des transports de Toronto qui, la semaine passée, a été au cœur d'un forum public sur l'accessibilité. Un peu avant ce forum-là, ils ont admis la ville de Toronto, donc qu'ils n'atteindraient pas le fait de rendre accessible tous les stations de métro d'ici 2025. C'était une promesse qu'ils avaient faite, qu'ils ne pourront pas tenir.
Et je dirais quand même plus qu'une promesse, parce qu'en 2005, en Ontario, il y a eu une loi qui a été promulguée au sujet de l'accessibilité des lieux publics et des infrastructures, et cette loi-là requiert que sur une période de 20 ans. Alors, la loi a été promulguée en 2005. Ça nous amène en 2025. Là, ça commence à chauffer. Alors, c'est une obligation légale de la part de la Société de transport de Toronto de permettre l'accessibilité de tous ces lieux. Alors, voilà, peut-être qu'au début, ben on y portait moins attention, mais maintenant, l'échéance de 20 ans est presque touche à son terme. Et à Toronto, bien, il y a 54 stations de métro qui sont maintenant accessibles.
Oui, 54 qui sont accessibles, ce qui n'est pas si mal. 9 de plus d'ici 2025, si tout va bien. Mais il restera donc 13 qui seront non accessibles.
Ils ne vont pas encore être tout à fait accessibles. Et dans ce cadre-là, malheureusement, c'est un scénario qu'on a déjà vu.
Oui, ça arrive de façon
manque milliard. D'accessibilité. Dans les transports publics ou parfois les constructions aussi, qui sont à Montréal aussi, c'est un enjeu qui se répète. Alors, même combat à Toronto.
Même combat un peu partout.
Dans les territoires du Nord-Ouest, hein? Là, on n'est pas canadien aujourd'hui.
On reste large aujourd'hui, donc 200 000 $ pour améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Donc, il y a le député des territoires du Nord-Ouest, Michel McHale, a annoncé les financements de deux projets, donc de 100 000 $ chacun, pour améliorer l'accessibilité. On parle d'un volet des petits projets du Fonds de l'accessibilité pour la rénovation à petite échelle qui va permettre la construction d'une rampe extérieure au bureau des conseils des centres d'amitié des territoires du Nord-Ouest au Nunavut, et c'est aussi un terrain de jeu dans un endroit de garde préscolaire à Deheim.
Okay. Ben, moi, je trouve que les initiatives locales c'est parce qu'il y a un élu local qui prend le dossier en charge. Hein. Souvent, c'est comme ça que l'appareil gouvernemental va bouger quand il y a quelqu'un qui dit « ben moi, dans ma circonscription, ainsi de suite, je veux qu'il se passe quelque chose ». Alors, la voie à l'accessibilité, souvent, ça passe par des initiatives de cet ordre-là.
Depuis la création du fonds en 2007, on a quand même 6 000 projets au travers du Canada qui ont été subventionnés. Donc, 6 000 petits projets d'accessibilité pour faire avancer la question de l'accessibilité universelle au Canada.
Voilà. Demain, c'est l'Halloween!
Demain, c'est Halloween!
Qu'est-ce qu'on va faire avec... comment est-ce qu'on peut permettre à un enfant qui vit dans une situation d'handicap ou de mobilité réduite de connaître un bel Halloween?
Il y a un mouvement donc qui s'appelle Rollowing.
Rollowing. Oui. OK.
Qui a été créé au Québec par des développeurs anonymes, entre autres sur un groupe Facebook. Il y a fondateur, Robert Murphy, lui a un atelier dans Rosemont et permet la création donc de costumes d'Halloween pour les enfants en situation de handicap où ils intègrent les outils de mobilité de ces enfants-là aux costumes. Donc, non seulement les enfants ont des beaux costumes, mais en même temps, ça change un peu la vision des choses parce que tout d'un coup, le fauteuil roulant, par exemple, devient un objet qui est cool, qui devient un accessoire de mode. Et donc, ça aide à favoriser... l'inclusion des personnes en situation de handicap et aussi ça améliore l'image que ces gens-là ont, de ces enfants-là, devrais-je dire, ont de leur propre handicap. Donc, un tout petit projet, mais qui fera bien des heureux autour de Montréal et un peu partout au Québec parce que le groupe est quand même rejoint par des gens qui aiment bien ces idées, qui partagent les idées, et on espère que le groupe va prendre de l'ampleur.
Oui, ben ça, je pense que c'est important d'en parler parce que L'Halloween, c'est comme un moment dans l'année où est-ce qu'on on veut être avec nos amis, hein, puis l'impression d'exclusion pour les enfants, là, à ce moment-là, ça blesse, si je peux dire. Ça, c'est important. Et comme le soulignait Mathieu, on a fait quelque chose là-dessus ce matin.
Oui, Hélène a reçu Robert Murphy puis bravo. Geneviève Ruet ce matin.
Alors, si vous voulez en savoir plus, là, vite, allez courir sur notre site puis allez voir l'archivage.
Attendez quand même qu'on termine l'émission.
Oui, on ne finit pas tout de suite. On va faire un petit tour du côté du calendrier culturel pour le mois de novembre. En terminant, les 176 pas de Fanny Britt sera présenté à la Maison Théâtre avec audio description. Ça va être le 19 novembre, c'est un dimanche à 13h. C'est l'histoire d'Octave, qui est un passionné de la musique et qui joue merveilleusement bien du piano. Toutefois, lorsque vient le temps de sortir du domaine où il vit avec sa mère et sa tante, il fige. Ah, ça arrive à tout le monde. Alors, le mélomane fait la rencontre de Delphine, une jeune fille audacieuse pour qui l'existence est une perpétuelle aventure. Alors là, on peut imaginer comment tout ça va se terminer. Ça, c'est à la Maison Théâtre, 245 rue Ontario-Est, à Montréal. Encore une fois, ça, c'est le dimanche 19 novembre, 13h, et il y aura une audio-description. Ça fait partie du calendrier culturel du RAM. Vous pouvez également mettre à votre agenda, dimanche, le 3 décembre, Glitch, Bouge de là. Une collaboration densité Bouge de là et la Maison des arts de Laval. Ah, mais ça, c'est bien à Laval. L'audio-description est particulièrement destinée aux jeunes publics aveugles. L'horaire est à venir sous peu. Alors, on pourra, ce dimanche, au début de décembre, assister à cette représentation. Alors, vous trouvez toutes ces choses dans le calendrier culturel du RAM. Voilà. Élisane.
Oui, qui est un endroit assez bien fourni en informations pour les sorties culturelles.
Oui, ben c'est ce qu'il faut. Au cours de l'année, ben, on aura l'occasion d'y faire un tour. On aimerait remercier notre technicien, musicologue et disque jockey, Mathieu Tessier. Merci Mathieu. Élisane Pellerin, encore une fois, le tour du monde en pas en 90 jours, mais en 30 minutes.
Oui, ben même chose, c'est parce que nous, on n'a pas de temps à perdre.
Voilà, Claire Guérin à la recherche qui fait des pieds et des mains chaque semaine pour nous nourrir de merveilleuses idées. François Beauregard ici qui vous dit ben merci beaucoup et à la semaine prochaine.